À toutes, il est midi 15, vous écoutez Radio BLV et vous êtes dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire, vous commencez à le savoir. Vous êtes avec Karina aujourd'hui et avec Fatima à la technique pour la deuxième fois. Oui. Salut Fatima.
Salut Karina.
Comment ça se passe de ce côté de la table?
Ça se passe bien.
Et puis, on a aussi l'honneur de recevoir une toute nouvelle animatrice dans l'équipe de La Locale. C'est une émission test, alors on est en opération séduction. Elle s'appelle Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour Karina.
Comment ça va? Tu es prête à nous partager quelques infos aujourd'hui?
Oui, je suis prête.
Merveilleux.
Un peu stressée, mais prête.
Allez, on y va. Alors Fatima, avec qui allons-nous parler dans cette locale du 5 janvier?
Alors aujourd'hui, on reçoit Alexandre Formori, infirmier scolaire, pour nous parler de la loi du 1er janvier sur le préservatif gratuit pour les moins de 25 ans. Donc bonjour Alexandre, ça va?
Bonjour à toutes.
Oui, aujourd'hui on te reçoit au téléphone.
Et oui, ensuite... Désolé, j'ai pas pu me rendre disponible pour vous rejoindre en studio.
Ouais, bah, y a pas de souci, on est toujours content de t'avoir aussi, quoi. Et ensuite, nous avons Nathalie Bagadé, c'est bien ça, Nathalie?
Bonjour
Nathalie.
Bonjour, qui va nous parler du salon du livre que vous avez créé, de Livrant, Les Optimales, qui commencera la semaine prochaine pour la toute première édition.
Exactement, 14 et 15, notez bien la date.
Et ça. Comme d'habitude, des idées de sortie et des infos locales.
Bon, on revient avec Alexandre. Coucou Alexandre, du coup. Depuis le 1er janvier, les préservatifs sont désormais gratuits en pharmacie pour les jeunes de moins de 26 ans. Et jusqu'à présent, la gratuité des préservatifs n'était pas possible. N'était possible, qu'auprès des centres de dépistage, de certaines associations et des infirmeries scolaires pour les mineurs. J'imagine que ça te parle, Alexandre, parce que toi-même, tu es infirmier.
Oui, c'est ça. Moi, je travaille dans une infirmerie à Romans-sur-Isère, dans un collège avec un lycée. Et en effet, c'est un lieu où les jeunes peuvent venir prendre des préservatifs gratuitement. Et puis quand on leur donne des préservatifs, bien sûr, on discute avec eux et puis on échange et on répond à leurs questions et on solutionne des fois des inquiétudes.
Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette loi et ce qu'elle implique du coup pour les jeunes et pour toi en tant qu'infirmier?
Ouais. Bah, en fait, avant, comme je disais, on pouvait trouver des préservatifs gratuitement dans les infirmeries, mais aussi au planning familial. Donc à Valence, c'est Rutière, pas très loin de Camille-Vernet. Il y a le centre santé jeune aussi, à la Tour-Maubourg. Et puis, ça peut être aussi dans les centres de planification ou dans les associations, comme par exemple Valence Diversité. Et puis, on pouvait aussi s'en faire prescrire par son médecin. Et ça, c'était sur prescription, dans une pharmacie, mais il fallait montrer sa carte vitale et se faire rembourser aussi par sa mutuelle. Donc, ce n'était pas très confidentiel, surtout pour les jeunes. Et maintenant, la différence, c'est qu'en allant en pharmacie, si on a moins de 26 ans, on n'a plus besoin d'ordonnance. Et du coup, on peut, si on est mineur, directement avoir une boîte de préservatifs gratuite. Ça fait une possibilité supplémentaire pour en trouver quand on est en difficulté et qu'on a besoin de s'équiper rapidement, j'ai envie de dire. Par contre, si on est majeur mais qu'on a moins de 26 ans, il faut quand même présenter sa carte vitale. Donc il n'y a plus besoin d'ordonnance non plus, mais on doit quand même présenter sa carte vitale pour qu'il y ait une traçabilité et on a droit à une boîte par jour. C'est des boîtes qui sont de 24 ou de 12 suivant les marques.
Ah oui, quand même, donc ça va. Mais est-ce que toutes les marques, du coup, on peut vraiment utiliser toutes les marques de préservatifs? Ou j'avais vu qu'il n'y en avait que deux qui sont actuellement remboursées.
Oui, c'est ça.
Ouais, donc c'est toujours la même chose.
Il y en a que deux. Ouais, c'est toujours les deux boîtes qui sont concernées, qui ont un agrément en fait entre guillemets par la sécurité sociale pour pouvoir être remboursées. Après, cette liste, elle peut évoluer, mais pour l'instant, il y a deux boîtes, une boîte de 12 et une boîte de 24. Ce sont deux marques différentes qui ont des présentations différentes, mais de toute façon, les préservatifs, ils sont tous normés, c'est-à-dire qu'ils respectent des normes qui sont très strictes. Hein, c'est des dispositifs médicaux, donc ils ont tous la même qualité. Il n'y a pas de différence de qualité, si ce n'est des différences après marketing ou des différences au niveau de la texture ou des parfums, etc. Mais c'est vraiment tous des dispositifs qui sont testés et qui sont vérifiés de la même manière.
Ok. Quel est l'état des lieux en matière de santé sexuelle en France pour les jeunes actuellement? Tu t'en sers un peu plus, toi, de ton côté?
En ce moment, le souci qu'il y a, c'est que l'usage du préservatif, il est vraiment un peu en chute libre, hein, j'ai envie de dire. Il y a de moins en moins de jeunes qui se protègent de manière adaptée face aux infections sexuellement transmissibles. Alors, la plus connue, c'est le sida. S'attrape avec le virus qui s'appelle le VIH, mais il y a tout un tas d'autres maladies sexuellement transmissibles, donc on appelle ça des infections sexuellement transmissibles ou des IST, et ces IST, du coup, elles se transmettent de plus en plus parce qu'il y a des comportements à risque qui sont un peu plus nombreux. On le voit par rapport aux consultations qu'on peut avoir de jeunes qui sont en difficulté par rapport à des symptômes qu'ils ressentent, et puis par rapport à des prises de risque, puisque dans un rapport hétérosexuel, il y a aussi le risque de grossesse, s'il n'y a pas d'utilisation, ni de moyens de contraception, ni de préservatif. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a de moins en moins... Il y a eu une époque où c'était très sensibilisé les jeunes, et aujourd'hui, ça pêche un petit peu. Donc c'est une mesure qui, du coup, rajoute une possibilité supplémentaire pour les jeunes de se saisir de leur santé. Mais c'est toujours bien, comme je le disais, de pouvoir accompagner ça d'éducation et de prévention. Et en France, aujourd'hui, il y a la loi du 4 juillet 2001 qui oblige tous les établissements scolaires à réaliser des séances d'éducation à la sexualité 3 fois par an, donc de la maternelle jusqu'au lycée. Et même le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale l'ont dit il n'y a pas très longtemps, on ne respecte pas cette loi parce qu'on manque de moyens, il y a des difficultés d'organisation, etc. Il y a plein de raisons, mais cette loi, elle n'est pas encore respectée. Donc il y a encore du boulot. Et nous, c'est ce qu'on fait un peu au quotidien avec des enseignants, avec les assistantes sociales, avec les infirmières scolaires. On essaye d'organiser les choses pour que ça puisse avoir lieu. Mais voilà, suivant les endroits, c'est pas toujours, ça se passe pas toujours pareil, de la même manière, dans tous les établissements scolaires.
Et Alexandre, comment est-ce que ça se fait que ça augmente le fait que les jeunes se protègent de moins en moins? Et aussi, je me demandais, est-ce que ça se ressentait du coup dans les statistiques? Est-ce que les maladies sexuellement transmissibles augmentent notablement chez les jeunes?
Alors du coup, c'est vrai que les raisons, elles sont un peu difficiles à expliquer parce qu'il n'y a pas, d'études vraiment sociologiques fines qui sont faites, mais les enquêtes qui sont menées, elles montrent que les jeunes se sentent moins concernés par leur santé sexuelle en tout cas. C'est-à-dire que ils ont plus la sensation d'être protégés de ça, d'être préservés de ça. En tout cas, c'est ce qui ressort des discussions qu'on peut avoir avec eux et puis des études qui sont faites. Mais il n'y a plus l'inquiétude qu'il pouvait y avoir il y a quelques temps par rapport justement à l'inquiétude du sida notamment, hein, qui a été dans les années 90 très forte. Et ça, ça a retombé un petit peu. Alors là, on se dit qu'avec tout ce qui se passe et les choses dont on parle un peu plus, ça va pouvoir peut-être s'améliorer. Et puis, il y a aussi toute une part d'échanges sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, etc., des applications de rencontres, qui font qu'il y a des comportements sexuels qui évoluent aussi, avec des jeunes qui prennent parfois des risques plus jeunes ou en étant moins préparés. Et donc ça existe aussi. Je pense que c'est tout un tas de facteurs différents qui font que, il peut y avoir des comportements qui évoluent pas forcément dans le bon sens.
Et est-ce que le VIH risque de revenir chez les jeunes ou d'autres maladies?
J'ai envie de dire que le VIH, il a toujours été là, il n'est jamais vraiment parti. C'est juste qu'on en parlait peut-être un peu moins. Le VIH, il y a des milliers de personnes qui vivent avec et qui l'ignorent parce qu'en fait, cette maladie, quand on est contaminé par le VIH, on n'a pas tout de suite des symptômes et on n'a pas tout de suite embêté par cette maladie. Donc si on s'imagine qu'on est préservé de ça et que du coup, on ne se protège pas au moment des rapports sexuels, on risque de contaminer d'autres personnes, d'autres partenaires. Et du coup, c'est ce qui fait que cette épidémie, elle augmente de manière exponentielle, c'est que du coup, ces contaminations, elles ne sont pas empêchées, parce que du coup, les personnes, elles ignorent qu'elles sont elles-mêmes contaminées. Wow. Et après, il existe d'autres maladies comme la syphilis, comme les chlamydia, etc., qui sont des maladies qui, là, pour le coup, peuvent se voir suivant les maladies, avec des symptômes qui sont plus ou moins gênants. Donc là, les personnes, elles consultent plus facilement. Mais ce n'est pas toujours simple de se dire que bah, j'ai un souci dans cette zone un petit peu intime, comme on dit, et que je bah, aller consulter quelqu'un, ce n'est pas toujours évident. Et donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir un professionnel de santé et à demander conseil, parce que les copains, les copines qui donnent des conseils, c'est sympa et ça c'est bien, mais un professionnel de santé saura répondre et saura vous orienter vers la bonne prise en charge. Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est pour la santé, et la santé sexuelle, ça fait partie de la santé en général, d'autant plus qu'il y a certaines infections sexuellement transmissibles qui, du coup, on peut avoir aussi un impact sur, par exemple, une augmentation du risque d'avoir des cancers plus tard. Donc c'est très très important de pouvoir justement prendre en charge au bon moment les personnes qui sont touchées par des infections sexuellement transmissibles.
Et comment vous les recevez concrètement dans les hôpitaux, les jeunes, quand ils ont ce genre?
Alors, du coup...
Oui, vas-y.
Du coup, moi, je travaille pas en hôpital, je travaille dans une infirmerie, donc les élèves, ils peuvent venir quand ils sont au collège ou au lycée, ils peuvent frapper à la porte, ils demandent un rendez-vous, ou peuvent venir pendant la récréation entre midi et deux, et là, c'est l'occasion de discuter, d'échanger. On peut les orienter vers un professionnel, parce que nous, on n'a pas les réponses à tout, bien sûr, on n'est pas médecin, par exemple, donc tout ce qui est de l'aspect médical, on ne va pas pouvoir leur répondre à toutes les questions, donc on peut les orienter vers un autre professionnel de santé. Et puis, justement, à l'hôpital, bah, il existe ce qu'on appelle le centre de planification et d'orthogénie, et du coup, c'est un centre aussi où les jeunes ils peuvent être reçus sur rendez-vous. Et à l'hôpital, à proprement parler, là, ils peuvent être accompagnés, etc. Et puis, il y a surtout le planning familial qui est une association, là, pour le coup, et qui, du coup, réalise des consultations aussi médicales avec des sages-femmes, avec des conseillères, familiales. Et donc, du coup, ça permet voilà, d'avoir une prise en charge assez globale de la personne, parce que quelqu'un qui va venir consulter pour un souci d'ordre sexuel, en fait, c'est de manière globale qu'on s'occupe de cette personne. On ne la prend pas juste en charge sur la sexualité, on la prend en charge bah, sur ses relations amoureuses, sur sa vie familiale, sa vie sociale, etc. C'est une manière générale.
Mmh. Et en tout début d'interview, tu disais que tu étais là pour répondre aux inquiétudes des jeunes. C'est quoi aujourd'hui, là, en 2023, les inquiétudes les plus courantes que tu entends auprès des jeunes?
Ah ben en fait, je vais un peu faire le boomer, comme on dit. Ce qui remonte le plus, en fait, c'est par rapport, alors j'allais dire aux réseaux sociaux, mais pas que, et aussi surtout à l'utilisation de plus en plus massive de la pornographie par les jeunes et de plus en plus jeunes, parce que du coup, bah, ils ont tous un smartphone dans leur poche et qu'il existe très peu, enfin il n'existe même pas du tout, de coupures, de choses qui empêchent les mineurs de pouvoir accéder à la pornographie. Et du coup, quand des jeunes qui ne sont pas prêts psychologiquement ou à pouvoir avoir un regard critique sur la pornographie, à pouvoir avoir du recul sur ces images, bah, et c'est des jeunes qui sont en pleine construction, et du coup ils se retrouvent avec des images qui ne sont pas du tout normales, parce que la pornographie, bah, ce n'est pas du tout la sexualité normale, c'est complètement caricatural, et c'est même exacerbé sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc du coup, ces images qu'ils ont, bah, ils construisent leur sexualité là-dessus. Donc ça biaise à la fois bah, leur image de eux-mêmes, par exemple, bah, est-ce que mon corps est normal ? Bah là, ils peuvent se poser des questions parce que bah, dans les films pornographiques, ce ne sont pas des corps normaux, hein, c'est des gens qui ont passé des castings, qui sont sélectionnés, il y a des effets spéciaux. Et puis, par rapport en relation à l'autre, bah, est-ce que la violence, par exemple, c'est quelque chose qui est normal, alors que non, hein, dans la sexualité, ce n'est pas quelque chose qui est normal, même dans la vie en général, la violence, alors que ça peut être valorisé dans ces images-là. Donc, les difficultés qu'on peut avoir, bah, elles sont imprégnées par ces images qui ne sont bah, pas forcément positives, voire même très négatives, par rapport justement aussi à l'image de la femme, hein, notamment. Et par rapport du coup à l'image que peuvent avoir les jeunes de la sexualité en général, qui est complètement faussée. Du coup, ça peut impliquer bah, des inquiétudes, des angoisses, voire des comportements qui ne sont pas adaptés.
Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui nous écoutent, que ce soit par rapport aux préservatifs ou par rapport à ce que tu viens de dire, enfin comme tu veux, mais profites-en, on te laisse la place pour dire ce que tu as envie de dire aux jeunes.
Ouais, bah, y a un truc très très important, c'est qu'il ne faut pas rester seul et il faut en parler. Et les premières personnes qui sont concernées par les jeunes, j'en envie de dire les enfants, les adolescents en général, bah, c'est leurs propres parents. Alors c'est pas toujours facile de parler de sexualité avec ses parents, c'est clair, hein, parce que du coup on s'imagine pas la sexualité de ses parents, mais les parents non plus n'ont pas envie de s'imaginer la sexualité de leurs propres enfants. Mais du coup, si on n'a pas du tout la possibilité de pouvoir en parler avec ses parents, il ne faut pas rester seul pour autant. Et il ne faut pas hésiter à aller voir soit un professionnel ou une professionnelle de santé, ou à aller consulter un médecin, ou aller dans une pharmacie, ou aller en association aussi. Il y a plein d'associations qui existent aussi pour pouvoir discuter de choses assez intimes. Il faut en parler avec quelqu'un de confiance. Et puis, il ne faut pas rester seul, en tout cas, avec ces questions et avec ces stress qui peuvent après... provoquer des angoisses ou sinon prendre des comportements à risque qui seront dangereux pour la suite. Voilà, n'hésitez pas, restez pas seul.
Merci beaucoup, beaucoup Alexandre pour cette information et pour tout ce que tu as expliqué. C'était très intéressant. Et du coup, on a fini l'interview on va raccrocher. Mais du coup, merci beaucoup et à une prochaine fois. Et merci pour tous les conseils et tous les informations que tu as partagées. Voilà.
C'était très intéressant.
À bientôt.
Merci beaucoup Alexandre.
À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Et quelques informations locales et idées de sortie maintenant. Par exemple, le sport, si vous avez envie ce samedi de voir un match, pourquoi pas. On va parler de hockey sur glace. C'est à 20h30 à Valence, les Lynx, donc notre équipe locale contre Villard-de-Lans, à la patinoire du Polygone, avenue Georges Clémenceau. Donc prenez vos billets, c'est pas mal cette saison de regarder le hockey sur glace. Rendez-vous sur le Facebook des Lynx, lynx-valence. Sur leur site internet, regardez sur Google.
L'association Le Plateau à Romans-sur-Isère, le groupe Huma donne un concert jazz poétique. C'est à 20h30, c'est demain au Plateau, et plus d'infos sur leur site.
Vous pouvez toujours aussi aller découvrir l'exposition Luigi, le premier est parti, au CPA à Valence. Une exposition du coup sur l'histoire des migrations italiennes en France à travers l'histoire d'une famille du Piémont. Il y a une visite guidée qui vous est proposée ce samedi à 15h, donc c'est au CPA. Plus d'infos sur le site du CPA.
Une soirée jeux de société en famille est organisée à la MJC de Châteauvert. C'est ce samedi de 20h à 22h30 et plus d'infos sur le site de la MJC Châteauvert.
On m'a coupé mon micro. Si vous en avez marre des mauvaises nouvelles et du froid, eh bien, nous, on a une bonne nouvelle pour vous. Le 14 et le 15 janvier prochain, donc pas ce week-end, attention, mais celui d'après, aura lieu le salon du livre de Livron qui s'appelle Les Optimales. C'est un salon du livre optimiste. Il porte bien son nom et rien de mieux pour passer le mois de janvier et février au chaud à lire des bouquins. Vous pouvez y trouver plus de 50 auteurs et autrices avec comme invité d'honneur Pascal Légitimus et d'autres autrices comme Nadia Coste, Anna Chronic ou Juliette Tressanini. L'entrée est gratuite et puis du coup on en parle avec Nathalie. Rebonjour Nathalie.
Rebonjour, je suis toujours là.
Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à ce projet ?
Alors moi j'ai une double casquette, hein. Je suis autrice à la base, c'est pour ça que je connais bien les salons du livre, j'en fais moi-même beaucoup en tant qu'exposante, hein, qu'autrice en dédicace. J'en ai fait 36 en 2019, curieusement un peu moins en 2020. Deux, parce que la situation a été un peu catastrophique pour nous pendant ces deux ans. Et donc ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, c'est que je suis déléguée régionale de la Ligue des Optimistes de France. Ça existe.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est un rassemblement de personnes qui veulent propager l'optimisme, la bonne humeur, parce qu'avec de l'optimisme, les choses vont beaucoup mieux, même si on a des... Ça ne veut pas dire qu'on a tous une vie facile, hein, mais avec de l'optimisme, les choses vont mieux, ça arrange plus vite. Et on le vit mieux, enfin, tout simplement, on ne vit pas les catastrophes de la même façon.
Incroyable, il y a une ligue, vous êtes organisés, les optimistes de France, ceux qui voient le verre à moitié plein.
C'est une ligue qui existe depuis longtemps, elle a été fondée par des gens comme M. d'Ormesson, hein, donc il y avait du beau monde lors de la création de la ligue. Et donc il y a des représentants régionaux dont je fais partie. Je suis déléguée pour la Drôme et l'Ardèche, et donc on essaye sur notre territoire en tant que déléguée d'organiser des événements optimistes. Et ce qui s'est fait traditionnellement, c'est les repas optimistes avec un bon petit repas, des citations, des moments de convivialité. Et moi, la seule fois où j'ai voulu organiser quelque chose comme ça, c'était une soirée jeux de société. C'est pour ça que j'ai rigolé quand j'ai vu qu'il y avait une soirée jeux de société prochainement, parce que j'adore ça, les jeux de société. Et on avait organisé une soirée jeux de société positif, optimiste, pas de compétition, pas de un grand gagnant qui écrase tout le monde. Donc c'était très, très chouette. Bon, on était 6, donc je me suis dit, c'est peut-être pas ma force là dans l'organisation d'une soirée de jeux de société. Moi, ma force, c'est voilà, les livres. Je connais très, très bien le milieu du livre. Donc, du coup, j'ai décidé de frapper fort, de créer le premier salon du livre optimiste. Et ça se passera donc à Livron-sur-Drôme.
C'est ambitieux. Et donc, toi, tu es optimiste?
Alors, je ne l'étais pas nécessairement au départ. Hein. Moi, j'étais plutôt un peu angoissée, très, très timide. Jamais tu m'aurais vu à la radio il y a 20 ans de cela. Et puis, ben, c'est les lectures qui m'ont vraiment permis de me sentir inspirée, de me trouver ma place et ma force pour dire non, pour affirmer qui je suis, ce que j'aime. Donc, les livres m'ont beaucoup aidée, les voyages aussi. Je suis une grande voyageuse. Et donc, tout ça, mis bout à bout, ben, ça a donné l'idée de faire un salon du livre optimiste où on fait venir plein d'auteurs de tous les coins de France. L'avantage d'avoir des personnalités optimistes et enthousiasmantes, c'est que lorsque vous êtes organisatrice, ça se passe super bien.
Ah, mais c'est génial. Tout le monde est content.
Ah oui, j'ai pas de pénibles, pour parler gentiment. J'ai pas de personnes qui sont lourdes ou qui sont désagréables. C'est vraiment des personnes qui sont chaleureuses, positives, qui nous disent « Ah ben tiens, je peux aussi apporter ça. Tiens, je vais faire cette animation bénévolement si vous le voulez. » Ah, ça a été un bonheur. Franchement, un vrai bonheur.
Et comment est-ce qu'on définit un livre optimiste? Est-ce que vous avez des critères de sélection? Comment ça marche?
Tout à fait. Il y a eu un comité de sélection indépendant qui a été créé, dont je n'ai pas fait partie. Parce que, un, je suis organisatrice et je suis aussi participante en tant qu'exposante au Salon du Livre. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai candidaté. Bon, alors après, la thématique de mes livres est en général le merveilleux et le développement personnel. Donc, bon, j'ai été prise. Je n'étais pas trop surprise. Mais je n'ai pas voulu être jugée partie. Donc, je n'ai pas fait partie du comité de sélection. Et le comité de sélection, c'est basé sur plusieurs éléments. La première de couverture. Déjà, si vous avez une première de couverture très sombre, très noire, avec la nuit du chaos, et on a eu une candidature qui s'appelait comme ça, vous êtes mal barré déjà pour participer à un salon du livre optimiste.
Donc, des couleurs.
Voilà, les couleurs, le sourire, les smileys, etc. Les titres. Je pense à un livre qui va bientôt sortir qui s'appelle Après la pluie, le bonheur. Bon, bah, vous avez un titre comme ça, déjà, ça sent bien pour participer à un livre optimiste. La quatrième de couve aussi est très importante, le résumé. Si c'est dans le résumé, il est mentionné un livre qui donne la pêche, un livre inspirant. Vous êtes dans les bons critères pour être dans un salon du livre optimiste. Et puis après, il y a quand même eu des cas de figure où il y avait un petit doute possible sur la congruence entre le livre et la thématique du salon. Du coup, là, le comité de sélection a lu le livre en entier. Alors, chacun s'est réparti les lectures. Il n'y en a pas eu tant que ça, finalement, ceux qui ont posé ce cas de conscience, on va dire. Mais il y en a eu. Et effectivement, à la lecture, ça s'est avéré. On est dans de la littérature optimiste puisqu'on se sent mieux après. C'est un peu ça, l'élément clé. Ceci dit, qu'est-ce que c'est qu'un livre optimiste? Eh bien, moi, en fait, j'ai envie de vous dire, on répondra à cette question samedi. samedi 14 à 11h, il y a une table ronde. Et c'est le sujet de cette table ronde. Qu'est-ce que c'est qu'un livre optimiste? Parce que c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai décidé de créer ce salon. Et donc, nos invités, nos auteurs invités, que vous avez cités, Pascal Legitimus, Juliette Trezanini, Nadia Coste, Anachronique, vont discuter de ça. Qu'est-ce que c'est pour eux un livre optimiste? Qu'est-ce que c'est pour les médias? On va mettre tout ça en balance et puis voilà, on va essayer de faire une carte d'identité.
Et je me demande, est-ce que tu sais si parmi le jury, il y a eu des débats sur cette notion d'optimisme ? Est-ce qu'il y a des livres qui n'ont pas mis tout le monde d'accord ?
Alors, il n'y a pas eu tant de débats que ça. Il y a plutôt eu certains auteurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui ont essayé de nous vendre à tout prix l'optimisme dans leurs livres, alors que clairement, ce n'était pas le cas. Mais ils disaient, oui, mais même si ça finit tristement, c'est un livre qui peut être inspirant. Oui, je suis d'accord que parfois, ça, la fin ne doit pas nécessairement être heureuse pour que ce soit un livre optimiste, quoique ça fait pour moi partie quand même d'un des critères possibles. Il n'empêche que voilà, c'est des personnes qui voulaient tellement participer au Salon du Livre, ça nous a touchés, qu'ils voulaient trouver la moindre étincelle d'optimisme dans leur livre. Mais bon, il faut être congruent, il y a des salons pour les dystopies, il y a des salons pour les livres, voilà, les polars. Nous, on est un Salon du Livre optimiste. Les gens qui vont franchir le seuil, il faut qu'ils sachent qu'ils vont trouver des livres très gais, très heureux et qui ne soient pas déçus dans leurs attentes. Ceci dit, on a beaucoup d'auteurs qui écrivent dans plusieurs genres. Moi-même, j'écris de la jeunesse, du développement personnel, un guide pratique. Donc, tout n'est pas optimiste. Mais comme tous les auteurs présents, il y aura une sélection optimiste sur ma table. Donc, bien identifiée, on a demandé à ce que ce soit bien mis en avant, la sélection optimiste. Et on ne veut pas priver les auteurs qui ont un métier difficile, que je connais très bien. C'est d'ailleurs pas un métier, on n'a pas de charte, on n'a pas la reconnaissance d'un vrai métier. Donc, c'est compliqué quand on veut vivre de notre plume, on va dire. Donc, on ne va pas les priver d'amener des livres qui sont moins optimistes. Ils sont là, ils ont fait l'effort de se déplacer, ils ont acquitté un prix pour leur stand. Ça, c'est pour les auteurs exposants, pas pour les auteurs invités. Je reviendrai là-dessus plus tard, si c'est possible. Et donc, ils auront la possibilité de vendre aussi d'autres livres que ceux optimistes, mais en précisant bien, ceux-là, ça fait partie de mon catalogue, mais ils n'ont pas été sélectionnés par le comité.
Un peu sur le côté de la table.
C'est ça.
Et oui, ces autrices ou auteurs invités, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire pourquoi ces choix-là ?
Ah oui, alors on a vraiment voulu dès le départ, c'était une volonté forte de l'association, de rémunérer des auteurs. Il y a une charte, la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, qui a établi une liste de tarifs conseillés pour les interventions des auteurs en dédicace, pour les interventions des deux auteurs en table ronde, en intervention scolaire. Et alors, on parle par exemple, quand c'est des demi-journées, on parle de 380 euros, des tarifs dans cet ordre-là d'idées. Mais c'est très rare, en fait, les organisateurs de salons qui ont les moyens de rémunérer les auteurs pour ça. Souvent, le parti pris, c'est de dire « Ah bah oui, mais ils viennent faire leur promo, donc après, finalement, ça va être intéressant pour eux. » Oui, mais c'est quand même 2 jours minimum. Là, ils viennent même 3 jours, hein, nos auteurs invités. 3 jours hors de votre famille, où vous ne faites pas, vous n'avez pas de loisirs, enfin, vous êtes consacré aux dédicaces, aux échanges avec les gens. C'est passionnant, mais c'est fatigant. Vous n'êtes pas avec vos enfants, vous n'êtes pas en train d'écrire, vous n'êtes pas en train de travailler, de produire quelque chose qui va vous rémunérer après. Donc, nous, on voudrait vraiment rémunérer dignement les auteurs. On n'a pas les moyens, bien sûr, de rémunérer 50 auteurs. Donc, on a pour l'instant, notre première édition, c'est 4 auteurs. Mais pour ces 4 auteurs, on parle quand même d'un budget de 5300 euros parce que ça inclut leur déplacement. C'est nous qui avons tout pris en charge les déplacements. L'hébergement. Je salue Garen, notre hôtel partenaire qui va héberger nos auteurs. Elle est chouchoutée, ils vont être très très bien là-dedans.
On la salue.
Voilà, on a aussi donc la restauration et donc la rémunération des interventions scolaires. Il y aura une après-midi d'intervention scolaire la veille du salon, les tables rondes, les séances de dédicaces.
C'est vachement important, je trouve, de préciser ça, parce qu'effectivement, il y a peu de gens qui payent les auteurs qui se déplacent. Donc merci de montrer autre chose.
Merci.
Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces auteurs ?
Nos auteurs invités.
Les chouchous.
Alors, c'est une première édition, hein, les optimales, ça, c'est tout nouveau. On va vers de l'inconnu, là. On est à 10 jours de l'événement, on est très, très excités, mais on ne sait pas encore si les gens vont vraiment pousser la porte. On a de bons indicateurs. On a vraiment des feux verts qui nous montrent que ça marche bien. Maintenant, quand je parle des optimales, les gens disent « Ah oui, j'en ai entendu parler. » Alors qu'il y a 3 mois de ça, c'est quoi les optimales ? Donc ça, c'est un bon signe. Et donc, quand les gens vont arriver sur les optimales, je ne me rappelle plus la question.
Les auteurs, enfin oui, Pascal Légitimus, voilà, par exemple, ça. Pourquoi ce choix ?
Alors, on a cherché des auteurs invités. et notamment une tête d'affiche, parce que les gens se déplacent aussi, soyons très francs, pour quelqu'un de connu. Mmh. Et eh bien, figurez-vous que des auteurs connus qui veulent venir pour une première édition d'un salon du livre à Livon-sur-Drôme, qui ne connaissent pas, dont ils n'ont jamais entendu parler, bah, ils ne sont pas nombreux. J'en ai contacté vraiment beaucoup. Mmh. Je parle de Virginie Grimaldi, je parle de Modankawa, je parle de grands noms de l'édition. Et soit leur maison d'édition, soit eux-mêmes, nous ont gentiment, mais fermement, décliné notre proposition, sachant pourtant qu'ils étaient invités. Voilà. Donc, c'était un peu dur pour nous. Alors, ceux qui ont accepté, je peux vous dire qu'on va les bichonner, parce que leur confiance nous a vraiment touchés dans ce contexte-là. Donc, la première à accepter, ça a été Nadia Coste, que je connais, que j'ai fait beaucoup de salons avec elle, qui a publié entre 20 et 30 livres. Enfin, elle a une capacité de production phénoménale. Elle est très chaleureuse. Les gens adorent ses livres. Elle a eu beaucoup de prix, d'ailleurs, hein, pour ceci, notamment les livres jeunesse. Donc, ça a été un plaisir qu'elle accepte tout de suite. Elle a un beau rayonnement, donc c'était super. Ensuite, le comité de sélection a recommandé une autrice que je ne connaissais pas, qui s'appelle Anna Chronik, et son nom, bien sûr, c'est un pseudo, elle est professeure d'histoire. Et donc, elle a voulu écrire sur sa vie de prof en BD, d'où son pseudo Anna Chronik, c'est assez drôle, et donc apparemment, ces BD sont très drôles. Moi, je les achèterai le jour des optimales, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de la découvrir. Ensuite, je suis allée moi-même à un salon du livre à La Rochelle, donc, enfin à l'île de Ré plutôt, ça fait quand même une trotte. Et là, j'ai rencontré Juliette Trezanini, alors que je pense que vos auditeurs connaissent peut-être parce qu'elle a joué dans Demain nous appartient.
C'est ça, et puis elle est sur YouTube aussi, et elle fait beaucoup de vidéos, je la suis depuis très longtemps, je l'adore.
Oh, super, je l'adore. Que tu viennes, mais oui. Il faudrait que tu viennes te faire dédicacer son livre, parce que tu sais, cette émission qu'elle a faite pendant le confinement, qui a eu beaucoup de succès, sur les phrases qui changent la vie, elle a interviewé des gens à qui on avait dit une phrase qui avait changé leur vie. Et ben là, on a fait un livre, et ce livre, je l'ai fini, je l'ai lu, je l'ai adoré. Donc, je lui ai demandé si elle était d'accord pour venir aux Optimales, elle a immédiatement accepté. Sachant qu'en plus, là, elle avait une très belle proposition de tournage en même temps qu'elle a refusé parce qu'elle s'était engagée vis-à-vis de nous. Donc, on la salue, on la remercie beaucoup pour cet acte. Et donc, elle sera là pour parler avec les auditeurs de ce fabuleux livre. Et enfin, le dernier, ça a été Pascal. Oui, Pascal Légitimus. Donc, c'est à nouveau notre partenaire Garen qui nous a mis en contact avec son agente. Et à partir de là, je l'ai appelé. Et figurez-vous que Pascal Légitimus donc, a écrit un livre en 2019. 2019, juste avant la crise. Donc, son livre, il n'a pas pu faire beaucoup de salons avec. Et en plus, Pascal, il est souvent invité en tant qu'acteur, en tant qu'humoriste. Mais en tant qu'auteur, il y a beaucoup de gens, quand je leur dis qu'il a écrit un livre, ils ne le savaient pas. Donc, il a agréablement été surpris de cette invitation en tant qu'auteur à notre salon. Et il a dit oui tout de suite. Et c'était aussi un très grand plaisir de travailler avec lui et avec son agente.
Super. Donc, si vous voulez rencontrer Pascal Légitimus ou les autres autrices incroyables qui ont accepté de venir, ou même vous remonter le moral, parce qu'on en a tous besoin, avec un bon bouquin, quelque part, sur son canapé, rendez-vous donc samedi 14 ou dimanche 15 pour ce salon du livre. Ça commence à 10h l'ouverture. On a une première table ronde de 11h à midi. Mm-hmm. C'est le sujet de la table ronde, c'est donc qu'est-ce qu'un livre optimiste ?
Voilà, tout à fait, pour le premier jour. Et le deuxième jour, c'est est-ce qu'il faut être optimiste soi-même pour écrire de l'optimisme ? Donc c'est très intéressant aussi.
Sur le même horaire de 11 à 12. Samedi à 13h, vous avez l'heure des comptes. Ça a l'air sympa.
C'est sympa.
Un atelier d'écriture de 14h30 à 15h30. Il y a énormément de choses. Une chasse au trésor de 16h à 17h. Des comptes à cueillir à 17h15. Et la fermeture du salon le soir à 19h30.
Pour le samedi, oui.
Et puis le dimanche, cette fois-ci, vous êtes toujours avec l'heure des comptes à 9h30 le matin. Et par contre, l'après-midi, il y a un atelier bien-être. Mm. Vous mélangez le
développement personnel,
ça va ensemble.
Tout à fait.
Bien-être, c'est à 12h30, 14h à nouveau l'atelier d'écriture et la chasse au trésor de 16 à 17 également. Et le salon ferme plutôt le dimanche à 17h30.
Voilà, pour que les gens puissent rentrer chez eux. Et mine de rien, c'est du travail. Vous savez, quand on va en salon, il faut monter son stand, sortir ses livres, ses caisses de livres, bien les organiser, après bien les ranger, et charger sa voiture et refaire le trajet en sens inverse. Voilà, c'est quelque chose de fatigant. Donc, vous ne voulez pas qu'ils rentrent trop tard.
Alors Nathalie, on te laisse le mot de la fin. Peut-être tu peux t'adresser directement aux personnes qui nous écoutent pour leur donner envie de venir.
Oh, j'espère que vraiment vous nous ferez confiance parce que vous y gagnerez beaucoup. Les échanges avec les auteurs, c'est quelque chose de très enrichissant. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les livres. On a bien conscience qu'il y en aura beaucoup. Mais allez à la rencontre des auteurs, ayez des coups de cœur. Parce qu'il faut souvent écouter ces coups de cœur, ces discussions qui vont vous dire « Tiens, pourquoi je suis attirée par cette couverture, par cette personne ?» Il y a sûrement un petit message à découvrir derrière tout ça. Donc, je vous le promets, vous allez passer un excellent moment à Livon-sur-Drôme les 14 et les 15 janvier prochains.
Merci beaucoup. Et est-ce que tu es d'accord de revenir dans une autre locale pour nous parler du métier? Parce que tu parlais bien beaucoup sûr. Des difficultés du métier, on n'a pas le temps de les aborder.
Bien sûr.
Mais c'est tout aussi intéressant.
Ah, mais je reviens avec grand plaisir, l'invitation est notée.
Merci Nathalie.
Grâce à toute la pluie qui est tombée, c'est officiel, on est sorti des restrictions liées à la sécheresse. Tout le monde peut à nouveau arroser normalement, sauf ceux qui habitent dans les zones Galor, Drôme des Collines, ainsi que sur la plaine de Valence, qui reste au stade d'alerte renforcée. Dans ces zones-là, pour les particuliers, il est interdit d'arroser les pelouses et les espaces verts, de remplir et de remettre à niveau les piscines, et de laver les véhicules hors des stations de lavage, à l'exception des obligations réglementaires. Plus d'infos sur drome.gouv.com.
Et ce dimanche, à la MJC du Grand Charron, plusieurs activités vous sont proposées dès 14h. De 14h à 16h, il y a un atelier d'écriture slam. De 16h30 à 17h30, un showcase d'un artiste local. Ce sera la petite surprise. Et de 18h à 20h, une scène ouverte à tous et à toutes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site MJC Grand Charron.
À Valence, je précise.
À Valence, oui.
Un atelier de cuisine bar de céréales est organisé ce samedi au Costoujour de 9h30 à 11h30. Puis un atelier Oser prendre la parole en public de 10h30 à 12h30 et un café Contact Famille LGBT de 15h45 à 17h. C'est sur inscription, donc n'hésitez pas à aller sur le site du Costoujour.
Et mardi prochain, le 10 janvier, au Costoujour, toujours, il y a l'apéro des paumés. J'ai trouvé ça drôle.
Les paumés rejoignent.
C'est ça. Le Costoujour à 19h à Valence.
C'est la fin de cette locale du jeudi 5 janvier. Mais restez sur Radio BLV.
Et oui, à 13h, retrouvez Ars Materia avec Joss Négon, qui est tourneuse sur bois. Donc ça consiste à fabriquer des éléments de mobilier neuf ou de les restaurer, ou restaurer des pièces anciennes. À 17h, il y a une rediffusion d'Avec ou Son Sucre de ce matin.
Et à 18h, vous pouvez réécouter cette locale.
Et à 20h15, il y a la route du blues.
Et puis ce samedi, on a un petit changement dans la grille parce qu'une toute nouvelle émission fait son apparition sur Radio BLV, n'est-ce pas Laetitia?
Oui. On fait une nouvelle émission samedi soir à 22h, Agathe et moi avec Kat à la technique. Ce sera en direct et ce sera tous les premiers samedis du mois. C'est une émission sur la culture lesbienne et on va commencer par le livre Le génie lesbien d'Alice Coffin. Alors je vous dis à samedi.
Et si vous voulez partager vos infos, écrivez-nous à agenda@radioblv.com. Si vous aimez l'émission, vous pouvez la retrouver ainsi que toutes les autres sur notre site internet www.radioblv.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram sur @radioblv.
Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à adhérer Radio BLV. L'adhésion coûte 5 euros, ça nous soutient énormément. Vous avez toutes les infos sur le site radioblv.com.
Et merci beaucoup à nos invités et aux animatrices, Letty, Karina et moi. Voilà.
Avec plaisir, merci Nathalie.
Merci.